Dans le contexte irakien, un tribunal international aurait sans doute été préférable. Mais on ne peut pas non plus opposer radicalement une justice nationale à une justice internationale. Il n'est pas illégitime que les Irakiens veuillent juger eux-mêmes Saddam Hussein.
Pourquoi est-ce que Saddam Hussein n'a pas été jugé ou ne sera pas jugé par un tribunal international?
Alors effectivement, c'est un tribunal qui a été créé par le gouvernement intérimaire irakien. L'Irak n'est pas signataire du traité de Rome pour la Cour pénale internationale. Vous savez que les Américains y sont de leur côté fortement opposés. Il s'agissait aussi de faire de ce tribunal un premier symbole d'une souveraineté recouverte par le nouveau régime irakien. Mais il est évident que ce tribunal, si vous voulez, a été créé par la volonté des Américains, donc son indépendance est surtout formelle. Mais les États-Unis restent une démocratie imparfaite, mais une démocratie quand même. Leur soutien au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a été crucial pour assurer la viabilité de cette institution. Donc l'opposition des Américains à la Cour pénale internationale n'équivaut pas à une opposition radicale à la justice internationale.
Alors, quelles sont les faiblesses de ce tribunal ?
Sans doute, le point le plus faible concernerait la défense. L'équipe d'avocats qui entourait Saddam Hussein, vous savez, sont sous la tutelle d'une de ses filles, Raga Hussein. La configuration est assez shakespearienne, puisque cette fille, son mari a été exécuté par son père. Et c'est elle qui, malgré tout, mène la défense de son père. Alors, leur axe de défense sont l'illégalité du tribunal spécial irakien, puisqu'il est, à leurs yeux, issu d'une guerre elle-même illégale. D'autre part, que les crimes allégués sont des crimes d'un pouvoir autoritaire, mais d'un pouvoir qui peut être comparé à la campagne militaire américaine en Afghanistan après le 11 septembre, un pouvoir réactif. Mais aussi, la défense semble devoir s'axer sur les conditions de travail. Elle s'est plainte de ne pas avoir été informée à temps de l'ouverture du procès, de ne pas avoir pu rencontrer suffisamment Saddam Hussein. Bon, tout cela est vrai. Saddam Hussein est dans la zone américaine, bunkérisé. Par ailleurs, il y a la question de la protection des témoins, de la manière de pouvoir faire des investigations sur les terrains. Vu le contexte de violence et d'insécurité, c'est évidemment très, très difficile.
Vous avez travaillé, vous travaillez encore sur le procès de Slobodan Milosevic à La Haye. Quelle comparaison peut-on faire entre les deux cas ?
La tournure de ce premier procès de Saddam Hussein, d'une certaine manière, est presque point par point l'opposé du procès de Milosevic. Le procès de Milosevic est un procès unique qui regroupe des charges d'accusation sur trois guerres dans trois pays différents. Le procès de Saddam Hussein, son juge d'instruction lui a signifié sept chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, mais le premier procès qui va s'ouvrir ne concerne qu'un de ces points, et un point certes important, mais dans son horreur moindre par rapport à d'autres charges qui devraient venir par la suite, comme le gazage des Kurdes de 88 ou la répression des chiites en 91. Par ailleurs, ce premier procès court, espérons, ne sera pas le dernier, ce que craignent certains, puisque la peine capitale est au bout, et si la peine capitale était appliquée assez rapidement, ce premier procès serait aussi le dernier. Alors qu'il y a par ailleurs 300 000 corps qui ont été retrouvés dans des fosses. Donc non seulement il faut espérer que ce premier procès ne sera que le premier d'une série d'autres procès, mais même le procès des 11 autres hauts dignitaires ne va pas épuiser la question de la justice des crimes commis sous le régime de Saddam Hussein. Et ça, aujourd'hui, les juridictions irakiennes, évidemment, sont incapables de pouvoir assurer cette œuvre de justice.